L'idée de Churchland et d'Edelman est très clairement annoncée. Nous connaissons le système nerveux. Nous avons une quantité extraordinaire de résultats expérimentaux faits sur le fonction du cerveau, sur la physiologie du cerveau, sur l'anatomie du cerveau. Maintenant, il faut modéliser tout ça. Il faut le comprendre, il faut le traiter d'une façon intelligente et en faire tirer les conclusions. Ça, c'est dit par Patricia Churchland dans son livre et c'est dit par Edelman. Et les conséquences de ça, c'est qu'ils ont pris les descriptions existantes à l'époque, c'est-à-dire aux années 95, 85, 90. Ils ont pris ça comme une donnée établie et par la suite, ils ont posé les jalons d'une théorie qui serait cognitive, qui donnerait une explication. Tout à l'heure, Marc Jeanneret, qui est toujours ici, a fait remarquer qu'il y a de moins en moins de modèles qui sont proposés dans les études en neurosciences, que ce soit sur la mémoire, que ce soit sur la perception. Et je pense que la raison est très simple, c'est que nos connaissances en neurosciences sont purement qualitatives, ils sont purement descriptifs, et ils n'ont pas de possibilité de prédiction. Ça, c'est très grave, parce que si on va baser une interprétation sur un niveau de complexité tel que le cerveau en lui-même, il faut supposer que nous avons une idée de les réseaux neuronaux, mais d'une façon non pas qualitative, mais quantitative. Je pense que la neuroscience se trouve à peu près de la chimie, il était avant la théorie de masse-action, avant la théorie thermodynamique. À cette étape-là, on ne peut pas expliquer pourquoi A plus B va gagner C et D. On peut observer que A et B dans C et D, mais on n'a aucun niveau d'explication. Et je crois que le problème dans les neurosciences, et surtout au niveau de les neurosciences intégrées, que je pense ici en France, il y a un problème de soutien et de financement et de véritablement développement de cette recherche, c'est que pour avoir une explication d'un réseau neuronal, une explication qui est prédictive, dans laquelle vous pouvez faire une prédiction. Il faut avoir une idée de le nombre de neurones en question. Il faut avoir une idée de la contribution de chaque neurone. Il faut avoir une mesure. Il faut savoir combien d'épines il y a sur une cellule pyramidale. Pour faire cela, il faut compter, il faut mesurer, il faut faire d'abord le travail. Et je pense qu'en neurosciences, on est en train d'assister à une sorte d'absence, au moins en partie en Europe, au moins. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins le problème. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait de quoi je suis invité de vous parler, mais quand même, j'aimerais donner une petite illustration de ça. Le travail que nous avons fait depuis de nombreuses années, c'est quel est le phénomène, quels sont les mécanismes qui assurent la spécification des aires corticales. Les aires corticales, Marc Jeanneret nous en a parlé tout à l'heure, ce sont des aires qui sont localisées de façon différente. Ici, c'est l'image de Brodmann que Marc nous a pointée tout à l'aire, dans laquelle nous savons que chaque aire traite un aspect différent, soit de la vision, de l'audition, de langage, de la mémoire, et que ces aires ont une cytoarchitecture qui lui est propre, ils ont une connectivité qui lui est propre et une physiologie. Et la question à savoir, c'est quels sont les mécanismes qui assurent l'émergence de ces différentes aires corticales. Ce n'est pas peu de choses parce que s'il y a un représentant dans le vivant, elle va se situer au niveau de la cortex, au moins chez l'homme. Donc on pense que la représentation se fait au niveau de le cortex, le codage serait quelque chose qui serait beaucoup plus périphérique. Alors, quels sont les mécanismes qui mettent en place ces différentes aires corticales? Mais je vous dirais que jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans, l'idée dominante, c'est qu'au début de le développement du cortex, on a une structure qui est complètement uniforme, qui est pluripotentielle, et dans laquelle chaque partie du cortex a un potentiel développemental égal. Ces expériences étaient les conséquences de travaux de Danny Sirlier et d'autres, dans lesquels, dans l'embryon, on allait prendre un morceau de cortex frontal immature, on va le placer dans le cortex occipital, on va laisser l'organisme se développer, Et puis on va interroger ce morceau de cortex et on va se demander est-ce que ce morceau de cortex frontal qui est placé dans le lobe occipital, est-ce que ça devient de lobe frontal ou est-ce que ça devient de lobe occipital? Et le soi-disant conclusion de ces travaux, publié en Nature, en Science, dans le Journal of Neuroscience, et qui était le dogme régnant dans le domaine du développement du cortex, était que le cortex devient acquis les caractéristiques qui sont localisées dans la place où vous avez greffé ce morceau de cortex. C'est quelque chose qui est absolument radical. Enfin, l'idée était quelque chose qui était énormément accepté, c'était un dogme. Il y a à peu près 7-8 ans, donc, on a pu, avec le développement de la biologie moléculaire, interroger d'une façon beaucoup plus intelligente l'identité de ces cortex qui ont été transportés. Et le travail de Mme Wessef à Paris et puis un petit peu partout dans le monde a montré qu'il y a une spécification moléculaire du cortex, que le cortex frontal ne ressemble à rien dans son potentiel de développement que le cortex occipital. Alors, depuis 7-8 ans, maintenant, le pendule a balancé complètement dans l'autre direction. Maintenant, tout est dans la spécification génétique et chaque aire corticale serait la conséquence d'une casquette de gènes qui s'exprimerait à un moment donné dans un endroit précis. Or, si on s'intéresse dans le développement, on sait que ces explications, toutes épigénétiques ou toutes génétiques, sont sans aucun intérêt. La complexité du vivant, c'est l'interaction entre les deux. Le défi pour les neurobiologistes est de comprendre comment l'environnement déclenche certains gènes dans certains endroits. Et le travail de Colette Dehay et moi-même sont été énormément donc associés à ce travail d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les interactions entre le système environnemental, l'environnement. Quand je parle de l'environnement, il y a bien sûr l'environnement physique de l'organisme, mais il y a aussi l'environnement dans lequel le cortex se développe, c'est-à-dire les projections thalamiques qui vont avoir un rôle très déterminant. Donc, je pense qu'un problème énorme pour approcher ce type de problème, le développement du cortex, le développement des aires du cortex, vient de le concept en biologie réductionniste qui existe actuellement. Beaucoup de travail qui ont été fait sur ce type de développement par Pascal Rakish aux États-Unis et nous-mêmes ont pratiquement tout été fait sur le rongeur. Le rongeur a été le modèle animal et maintenant dans le règne de la génétique bien sûr, alors là on ne va jamais revenir en arrière. Donc on va étudier le développement du cortex de rongeur parce que on suppose que le rongeur, c'est un modèle, c'est un cortex, c'est un isocortex, c'est un néocortex, qui est équivalent à le cortex qui nous intéresse, c'est-à-dire celui des primates et nous-mêmes. Nous avons pu montrer que ceci, je ne sais pas si vous pouvez tous voir au fond de la halle, je ne vais pas aller en grand détail, mais ici, nous avons, en bas, vous voyez, c'est important, mettez-vous debout peut-être. C'est très important. Donc, c'est en bas, vous avez des différentes étapes dans la maturation de l'neuroépilium, dans la maturation du cortex du rongeur, à des étapes équivalentes de celui de le primate, de le singe. Donc, à chaque étape, vous avez les productions de neurones qui sont destinées à le compartiment, le même compartiment. Vous n'êtes pas devenu anatomiste, vous voulez voir entrer en détail, ces travaux ont été publiés l'année dernière. Mais ce qu'elle montre, c'est que les compartiments germinaux, c'est-à-dire les zones dans lesquelles est né les neurones du cortex, sont complètement différents dans les deux espèces. Ils ne sont aucunement comparables. C'est-à-dire que traditionnellement, chez le rongeur, on décrit une zone ventriculaire et sous-ventriculaire. Et nous savons que c'est les effets de l'environnement, l'environnement de l'ensemble de l'organisme en développement, qui va déterminer le phénotype dans ces zones germinales. Or, les zones germinales, c'est le singe, c'est le primate, et chez l'homme, ne ressemble absolument rien à les zones germinales, c'est le rongeur. Et il y a des différences qui sont encore beaucoup plus flagrantes. En vert, c'est le compartiment que nous savons contient les fibres thalamiques. Si vous regardez la présence des fibres thalamiques, elles arrivent, et les fibres thalamiques, c'est donc le fait possible dans l'environnement sur la maturation du cortex, elles arrivent dans le cortex du singe à une étape où il n'y a pas de naissance encore de neurones pour le cortex, à une étape extrêmement précoce. Chez les souris, ces mêmes projections ne vont pas arriver avant le milieu de la période de la neurogénèse. Autrement dit, c'est le singe, chez les primates, chez l'homme, le parallèle entre l'homme et le singe est extrêmement forte, on trouve une possibilité d'une influence de l'environnement qui est beaucoup plus importante que celle de chez la souris. Et en effet, au lieu de réfléchir, au lieu de penser le souris comme étant une sorte de sous-homme, on voit que dans le souris, il y a une adaptation phylogénétique complètement différente qui fait que le souris fait quelque chose d'extraordinaire. Elle produit dans 6 jours un cortex. Un cortex qui est certes beaucoup plus primitif, qui n'a pas du tout la parcellation, qui n'a pas du tout cette multitude des aires corticales que nous avons vues qui existent chez l'homme et qui existent en moins de degré chez le singe, mais qui existent quand même. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif, mais c'est quelque chose qui est fonctionnel. Et ça, c'est une adaptation, je pense, extrêmement intéressante. Le prix à payer à ça, c'est un cortex beaucoup moins fonctionnel. Or, le singe et l'homme produisent essentiellement la même structure au point de vue de nombre de neurones, pas du tout en complexité de connectivité, mais en nombre de neurones, non pas dans 6 jours, mais c'est le singe en 60 et c'est chez l'homme dans une centaine. Donc il y a une augmentation du temps, et l'augmentation de temps veut dire tout un prix à payer, parce que l'organisme reste extrêmement vulnérable. L'investissement parental est énorme. Donc c'est un tout autre système biologique qui est en train d'être décrit. Mais une conséquence de ces différentes périodes de temps, et je n'ai pas de possibilité d'entrer là-dedans, nous savons maintenant que la similitude génétique entre les espèces est beaucoup plus grande qu'on aurait pu penser il y a pas si longtemps. L'homme et le chimpanzé partagent 98% de patrimoine. Mais ce qu'on oublie de dire quand on fait ce type de remarque, c'est que les gènes qui sont différents sont surtout exprimés différemment dans le temps. Alors, les mêmes configurations spatiales exprimées différemment dans le temps pourraient avoir des conséquences qui sont complètement différentes. D'où l'importance de les fibres thalamiques qui sont présentes dès le début de la production neuronale et qui ne sont pas du tout chez les souris. Cette configuration, cet environnement, cet micro-environnement de le cortex va donner une possibilité complètement différente pour l'interaction entre l'environnement et le développement du cortex. Alors, dans les années 80, le travail de Colette et moi-même, qui montrait que, oui, la zone germinale contient une carte des futures aires corticales, donc j'étais classé comme quelqu'un qui était plutôt contre le dogme qui était régnante, qui était sur le développement épigénétique du cortex. Maintenant, la situation est un peu le contraire. Ici, nous avons à gauche, je m'excuse, je sais que vous n'êtes pas des anatomistes, mais vous avez une section qui traverse le lobe occipital du singe, et vous avez en haut, à gauche, là où il y a la flèche, la séparation entre l'indication de la position de l'air 17 et l'air 18. L'air 17, c'est le singe, c'est l'air primaire, c'est l'air qui reçoit les afférences thalamiques de l'ALGN. L'air 18, l'air adjacente, c'est l'air secondaire. Et vous voyez, à l'œil nu, vous pouvez voir les distinctions entre ces deux aires. En fait, c'est un exemple d'un boundary entre deux aires corticales qui est très, très forte et qui est très intéressant comme modèle de développement d'un aire corticale. Alors, si vous regardez de près, on peut aussi voir que l'épaisseur de l'air V1 est plus grande que l'épaisseur entre la matière blanche, ici la matière blanche, et que l'air de l'air 18. Et en fait, le nombre de neurones contenus dans l'épaisseur du cortex de l'air 17 est à peu près 2 fois plus que dans l'air 18. Or, l'air 17 et l'air 18 sont produits sur le même temps. Il y a la même quantité de temps. Donc deux choses l'une, soit il y a un mort neuronal massif en R18, soit il y a une production de neurones qui est plus importante en 17 qu'en 18. Alors, le mort neuronal aux années 80 était extrêmement à la mode parce que, comme je vous expliquerai tout à l'heure, elle était le choix épigénétique, leur mécanisme de choix pour ces personnes comme Edelman et d'autres qui voulaient voir dans l'épigénèse, dans le contrôle environnemental, le mécanisme qui met en place la complexité du cerveau. En fait, le travail de Colette et Hay montrait que le zone germinale de l'R17 produisait plus de neurones que le zone germinale de l'R18. Alors, maintenant, si vous suggérez que l'environnement a une influence sur le développement du cortex, vous êtes contre-courant. Et ça, c'est dans l'espace de 8 ans. La sociologie du science est extraordinaire. La biologie moléculaire, maintenant, avec les chips, nous donne la possibilité d'interroger le génétique. Et maintenant, ce n'est plus du tout à la mode. Donc, ce n'est plus vu qu'il y a un effet environnemental. Alors, ici, sur votre droite, est une section qui est exactement la même que celle-ci à votre gauche, mais qui est prise chez un animal dans lequel le système visuel a été déafferenté in utero. Déafferenté in utero, à peu près le stade où il y a le premier neurone produit dans le cortex. Et les deux flèches ici indiquent les dimensions, indiquent les limites de l'R17. Si vous regardez le thalamus de cet animal, il n'y a pratiquement pas de fibres. Il n'y a pas de fibres, il y a une disparition totale, quasi totale, de la géniculée latérale qui fournit les afférences à l'R17. Mais si vous regardez la séparation entre l'R17 et l'R18, on voit que la barrière, la frontière de l'R17 est aussi précise. Quand on fait le comptage de neurones à l'épaisseur de l'R17, on trouve qu'elle compte toujours deux fois que l'R18 qui est maintenant situé ici. Et aussi de cette aire qui est, après Pascal Reiki chez nous-mêmes, on appelle le cortex hybride. De ça, nous avons pu montrer avec Colette Perret, nous avons pu le montrer in vivo et maintenant in vitro, que le thalamus non seulement contribue à la maturation du cortex, mais elle régule et module la prolifération cellulaire, qui est l'événement le plus basique dans la production du cortex, parce que c'est la prolifération cellulaire qui va déterminer, c'est le rythme de le cycle cellulaire qui va déterminer la production de neurones, qui lui-même va déterminer le nombre de neurones non pas simplement dans chaque aire corticale, mais dans chaque couche corticale, dans chaque compartiment cortical. Et c'est ces nombres-là qui précisément déterminent la cytoarchitecture de le cortex. Donc, il n'y a absolument aucun doute, et ceci, ce travaux se produit, se publie, donc il n'y a absolument aucun doute, mais il y a une sorte de tension, si vous voulez. On est allé dans le tout génétique, à le tout épigénétique, et je pense que ce qui sera intéressant maintenant, c'est de comprendre exactement comment l'environnement, et par l'environnement, je veux dire les afférences thalamiques, mais l'environnement plus tardif qui serait l'environnement de l'expérience de l'individu, comment elle interagit avec le système développemental. Et je pense que c'est là la clé de différence entre les espèces. Mais le problème, c'est que les séquences temporales de mise en place de différents aliments entre le souris et les primates est tellement différent qu'à ma sens, le souris nous informe absolument pas de tout de l'effet de le développement, nous dit très très peu de choses, effectivement. Alors, je pense que si on a un intérêt donc, dans la cogniscience, et on va revenir maintenant à la neuroscience, et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une absence de connaissance sur comment ça marche, je suis un peu critique là-dessous, mais une des systèmes sur lesquels nous avons peut-être le plus de connaissances concerne le système visuel. Le système visuel a été un système de choix parce qu'on peut contrôler le paramètre de stimulation de façon très, très précise et interroger de façon très précise la réponse de neurones. Et de ça, nous avons pu établir des connaissances qui sont extrêmement précises sur certains aspects du système visuel. Quand on met ensemble ces connaissances, on finit avec un cap des aires corticales qui sont impliquées dans la vision. Donc l'entrée se trouve au niveau de le thalamus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'LGN qui projette sur l'aire V1, V1 c'est le premier aire visuel, qui projette sur l'aire V2, V3, un cascade, tout un cascade des aires corticales, et nous allons jusqu'à l'aire 46 qui est dans le cortex préfrontal. Donc, la modélisation que nous pouvons faire à partir de ces types d'études anatomiques et physiologiques vont inclure énormément d'aires corticales qui font partie, qui ne sont pas strictement uniquement partie de l'aire visuelle lui-même. Alors, qu'est-ce qu'elle suggère, ce type de carte? Et je pense que vous avez souvent vu ce schéma de l'organisation. Elle ne suggère pas, elle le prouve en quelque sorte, que le système est organisé d'une façon hiérarchique. Il y a une hiérarchie qui va de le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à 7 ou 8 niveaux, et il y a par la suite une sorte de sortie qui aboutirait peut-être sur le comportement. Cet concept est vrai et elle est faux. Elle est vraie dans le sens que si le paramètre que nous mettons ensemble, les paramètres anatomiques et physiologiques dont je vous en parle, elle accorde parfaitement avec celle-ci. Elle est faux si on commence à regarder, par exemple, la latence. On sait, par exemple, que le frontal eye field, qui est dans le cortex prémoteur, a des réponses neuronales qui sont simultanées avec l'air V1. Donc, il n'y a pas une succession dans le temps, dans l'activation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en boucle, et beaucoup plus en réseau. Et donc, c'est faux de ce sens-là. Et de plus, si on parle d'une hiérarchie, on parle d'une connaissance exacte. Si vous pensez à une hiérarchie dans la sociologie, vous pensez que vous avez une personne, puis après une autre personne, une troisième personne, une quatrième personne. La modélisation de la donnée qui ont été utilisées pour faire ce schéma ici, qui a été faite par Malcolm Young à l'Université de Newcastle, montre qu'il y a 350 000 solutions également possibles. C'est-à-dire que nos connaissances de la hiérarchie sont totalement absentes. Il y a une hiérarchie, laquelle on n'a aucune idée. Donc, je crois que la deuxième idée qui est faux là-dedans, ou qui est faux, qui était en train d'être remis en question, c'est quelle est la nature des voies ascendants et quelle est la nature des voies descendants. Si vous prenez la rétine et le géniculé, c'est une voie ascendant parce que le géniculé ne projette pas sur la rétine. Sur le port d'entrée, il n'y a pas de problème. La rétine projette sur le thalamus reçoit de la rétine. C'est un feed-forward pathway, il n'y a pas d'autre façon pour le nommer. Je vais utiliser le terme feed-forward pour ascendant et je vais utiliser le terme feedback pour descendant. Donc, ce schéma qui a été proposé par David Hubel dans son travail qui a amené à obtenir le prix Nobel, ce schéma est un schéma qui est hiérarchique et qui est conceptuellement basé sur une notion de feed-forward. Le mécanisme sous-jacente, ce sont des mécanismes feed-forward. Alors, depuis un peu de temps, on s'intéresse dans la connectivité entre ces différentes étapes. Or, si on regarde la connectivité de cette aire-ci, par exemple, on va trouver que 80% de connexion de n'importe quel niveau, 80% de ces connexions va concerner les connexions à l'intérieur de l'aire même. C'est-à-dire, les neurones dans une aire corticale projettent sur cette même aire corticale. De le 20 ou 15% restant, 7% sont ascendants, à peu près, et 7% descendants. Les projections descendants sont aussi nombreuses que les projections ascendants. Si vous prenez par exemple, donc entre la rétine et le GL, la situation est très simple, toutes les projections de rétine vont sur le GL, enfin, sur le GL et d'autres organes, mais il n'y a pas de projection de le GL sur la rétine. Si maintenant vous allez entre le GL et l'air V1, l'air V1, c'est l'air visuel par excellence, elle répond à la vision, j'allais dire que à la vision, mais elle répond, c'est l'air visuel par indiscutablement. Et si vous regardez maintenant le nombre de synapses dans l'air V1 qui sont leur origine de l'EGL, ça tourne autour de 2-3%. Si maintenant vous regardez les projections sur l'RV1, le GL, le géniculé latéral, constitue moins de 1% de l'entrée. Donc, si vous allez avoir un système qui est feed-forward, et pour vous qui s'intéressez dans la représentation, un système de représentation basé sur le feed-forward, c'est très difficile à comprendre qu'à chaque niveau, vous avez autant d'ascendants et de descendants, et qu'en fait, la connectivité qui intéresse tous les niveaux, c'est toujours une connectivité récurrente. C'est toujours une connectivité récurrente, et le travail de Kevin Martin suggère que cette récurrence amplifie des signaux ascendant, mais descend aussi. Donc le mystère, je dirais, le mystère tourne, je pense, de plus en plus sur la nature de ces différents types de connexions. Donc ici, le géniculé latéral, l'air V1, V2, V3, etc. Ça, c'est les voies ascendantes. C'est des mécanismes, donc, de feed-forward. Les mécanismes feed-forward, je ne vais pas entrer en détail, je n'ai pas de temps. Et dans la voie descendante, vous avez un nombre de connexions qui est aussi importante et qui sont impliquées dans quel processus. Bon, on sait maintenant que les parties du cerveau, les parties du cortex qui sont impliquées dans l'imagerie visuelle, vous fermez les yeux, vous imaginez le visage de votre grand-mère. Si vous avez un succès pour le faire, c'est l'imagerie visuelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, active, non pas uniquement les aires le plus haut dans le système. Cosine a montré qu'il y a une activation des aires qui sont extrêmement bas dans le système. Vous avez une activation de l'air V1 par l'imagerie. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une trentaine d'aires corticales et il semblerait que l'imagerie serait quelque chose qui impliquerait non pas les étapes finales de le système, mais qui impliquerait aussi les aires les plus fondamentales. Et on pense maintenant, il y a d'autres expériences qui vont dans exactement le même sens. Si on fait une activation, pour ceux entre vous qui sont un petit peu plus spécialisés dans le système visuel, si j'active le système d'analyse du mouvement, on a chez l'homme des phosphènes en mouvement. Si j'ai fait une inactivation de l'air V1, j'active l'air MT, le V5, dans lequel le mouvement est analysé. J'active dans cette situation-là V5, j'ai inactive V1, il y a une disparition, il n'y a pas de phosphène en mouvement. Ça semblerait dire donc que vous avez besoin d'un air V1 intact pour pouvoir percevoir le mouvement. Et je pense que là, il y a tout un débat qui va exister maintenant sur quelle est la nature donc, de ces projections dites feedback. On sait qu'ils sont sûrement impliqués dans les effets intentionnels. On trouve les effets intentionnels maintenant, c'est-à-dire on sait que dans la vision, si vous faites un enregistrement sur un animal et l'animal fait attention à la stimulation visuelle, vous allez changer complètement la capacité de le neurone à répondre à cette stimulation. Bon. Il y a une dizaine d'années, on pensait que les effets attentionnels seraient uniquement dans les aires, dans le cortex préfrontal ou pariétal, etc. Mais en fait, on trouve de plus en plus des effets attentionnels, non pas uniquement dans l'aire 17, mais aussi dans le thalamus. Donc, ces phénomènes attentionnels sont très probablement aussi impliqués par la voie feedback. Et puis, dernièrement, L'autre phénomène, c'est le travail de Jean Boullier qui a montré, qui a impliqué ça, c'est le phénomène de segmentation. Qu'est-ce que c'est la segmentation? La segmentation, c'est impossible à expliquer dans 30 secondes, la segmentation, c'est la représentation visuelle. Si je regarde cet objet-là et je vois un objet qui est distinct d'un fond, si je suis capable de faire ça, ce qu'aucune machine jusque maintenant est capable de faire, il y a un processus de segmentation. Et s'il y a un processus de segmentation, il y a un processus de représentation qui n'a pas à confondre avec codage. Or, la segmentation peut être explorée par ce type d'illustration. Vous voyez un dalmatien sur un fond et vous êtes capable de distinguer le dalmatien de le fond par un processus de segmentation. La configuration de ces stimulus va faire en sorte qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés pour le faire, mais vous êtes capable de le faire. Et on pense que ce type de phénomène où vous avez des lignes imaginaires illusoires sur ce type d'illustration et vous avez la capacité de distinguer des patterns avec un fond, explore ou utilise les capacités du cerveau
à segmenter. Et la segmentation n'est pas un aspect de la vision, c'est le base de la vision telle qu'on peut le comprendre. Or, la segmentation, le travail de Jean Boulier a pu montrer qu'il y a une implication de le feedback, le voie feedback, de voie descendante, donc dans le processus de segmentation. Donc, il semblerait, quand vous entrez dans le détail, que le feed-forward soit dans le feed-forward mechanism, construction de le champ récepteur, mais les processus qui sont peut-être les plus intéressants impliquent fortement les voies feedback. Alors, avec Colette Dehaye, nous sommes intéressés dans la mise en place de connexions entre les aires corticales. Les gens que j'ai mentionnés tout à l'heure, Jared Edelman, vous regardez dans son livre, a pris l'idée dominante, toujours assez bien répandu, que les premières connexions entre les aires corticales sont parfaitement aléatoires et que c'est l'élimination des connexions qui va mettre en place le circuit responsable chez l'adulte. Je pense qu'il y a toutes sortes d'arguments pour penser que c'est complètement fumeux, mais c'est un concept, c'est une idée qui existe depuis fort longtemps. Et on peut se dire, mais est-ce que c'est important finalement? Est-ce que les mises en place de connexions entre les aires corticales, que ce soit l'élimination ou pas, est-ce que c'est intéressant? Je pense que c'est très intéressant, parce que si on prend l'énergie à distinguer les deux mécanismes, le premier, ce serait un guidage moléculaire spécifique d'un axon sur son cible approprié. L'autre, c'est le élage, le pruning, je ne sais pas comment vous dites en français, pruning. Et les gages, des connexions inappropriées. Quand on fait les distinctions entre les deux, mais on trouve quelque chose qui est très très clair et très net, c'est que le voie feed-forward passe par un processus de guided growth, de guidage précis moléculaire, alors que les projections en feedback sont complètement différentes, ils sont diffus exactement de la façon que Georgian HNT et qu'Hillman ont pensé. Mais ce n'est pas de façon aléatoire dans tous les sens. Si vous étiez des neurobiologistes, il y aura quelqu'un qui dirait, mais écoute, non, ce n'est pas possible, parce qu'on sait que la rétine projette de façon aléatoire sur le géniculaire latéral. Nous avons repris ces expériences qui sont citées dans tous les livres, c'est faux. Si vous faites les marqueurs appropriés, si vous regardez suffisamment précision, vous voyez que la projection de la rétine sur le géniculaire latéral spécifie, respecte parfaitement toutes les couches. Donc, pour résumer, je pense que les processus épigénétique et génétique sont extrêmement intéressants. Ils ne sont pas du tout démodés. Il faut, au lieu d'aller d'une extrême à l'autre, que ce soit dans la spécification des aires corticales ou les connectivités entre les aires corticales, il faut adresser la spécificité de chacun. Je pense que, si vous réfléchissez maintenant, ce que je viens de vous dire, c'est que la projection descendante du système, lui, dépend énormément de l'expérience, peut-être postnatal, de toute façon environnemental, et qu'il y a un aléage avec une sélectivité progressive, et que le système ascendant est basé sur un mécanisme qui est complètement différent. Je pense que ça c'est un statement qui est beaucoup mieux que d'avoir une sorte de confusion perpétuelle, presque sémantique, entre ces deux autres notions. Et je pense que le modèle approprié pour regarder ceci n'est pas dans l'orangeur. Ce n'est pas possible. Vous ne verrez jamais en projection feedback et feedforward parce qu'ils sont complètement mélangés. Vous n'arriverez jamais à disséquer les différents événements temporal-spatiaux qui vont déterminer la mise en place de connexion. Il faut étudier des animaux qui sont beaucoup plus évolués. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation tonique et interactive de votre représentation du développement du cortex. On a 5 minutes de questions à peu près avant de passer à notre prochain intervenant. Qui est-ce qui veut poser des questions à Monsieur Kennedy? Monsieur?
Est-ce que vous souscrivez à cet aphorisme? Si le cerveau pouvait se comprendre, il serait beaucoup trop compliqué pour pouvoir se comprendre.
Non, je ne partage pas cette idée. Mais je pense que la complexité du cerveau est quelque chose qui est déroutant et qui nécessite une approche beaucoup plus humble. Je pense que de construire des ordinateurs qui font la même chose de cerveau et pensent que vous avez un système qui informe est complètement faux. Je pense qu'il faut faire des modèles qui respectent le lenteur extrême du système nerveux et s'interroger sur est-ce que ça, vous pouvez avoir une compréhension qui est plus détaillée. Donc je pense que la complexité du cerveau ne va pas se révéler dans quelques dizaines d'années. 90 à l'année 2000 était la décade de le cerveau. Il ne faut pas croire qu'on va dans la période de 10 ans. Je pense qu'il faut revenir aux bases et je crois qu'il faut faire plus d'expériences et je crois qu'il faut, il faut mettre du travail là-dedans. Mais je pense que la barrière dont vous suggère tourne autour de la question dite « the hard question », la conscience. Et le problème de la conscience, je ne pense pas que le problème de la conscience va être véritablement élucidé par les neurosciences pendant très très longtemps.
S'il vous plaît, je voudrais juste une précision parce que vous nous avez montré une diapositive avec le développement progressif des couches du cerveau. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire toujours qu'il y a 6 couches principales dans le cortex et qu'elles se développent depuis l'intérieur vers l'extérieur au cours du développement ou est-ce que c'est inexact ?
Non, c'est parfaitement exact. Par contre, ce qui révèle, par exemple, intéressant et différent chez l'homme et chez le singe, c'est que le sous-plaque, vous avez donc la plaque corticale, les 6 couches, donc vous faites allusion. Dans la couche 6, c'est la première, le sous-5, le deuxième, et jusqu'à la couche 2. La couche 1 est une exception. Ça, c'est vrai, mais dans la maturation du cortex du primate, la structure de loin la plus importante, au point de vue du volume, ce n'est pas la plaque corticale, c'est le sous-plaque. The cortical subplate. Et le sous-plaque chez les primates se développe non pas d'une façon inside-out, de l'intérieur vers l'extérieur, mais complètement l'inverse, c'est de l'extérieur vers l'intérieur.
Merci.
On a encore le temps pour une petite question. Monsieur ?
Vous pouvez peut-être la répéter. C'est pas chez l'homme que vous allez expérimenter, je suppose.
Oui. On sait que le système visuel de primate est extrêmement évolué. Maintenant, si vous voulez travailler sur le système auditif, ce ne serait peut-être pas du tout le cas. Je pense qu'il faut regarder le système. Le singe est beaucoup plus près de... Le modèle, les schémas du cerveau est beaucoup plus similaire à celui de l'homme, mais le singe n'est pas un homme. Donc, moi, personnellement, pas, je ne vois pas de difficultés éthiques à travailler sur les singes. Ne confond pas le singe avec le grand singe, the apes. Ça, c'est... pardon ? On travaille sur le macaque. Il n'y a aucune expérimentation. Pour le sida, c'est une exception qui n'était pas très prolongée. Il n'y a aucune expérimentation sur le grand apes. Donc, le singe, c'est un animal sauvage qui ne pose pas, je pense, de problème éthique.
Bien, merci beaucoup une fois encore.